Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité. Voilà un demi-siècle que vous écrivez et chantez en vers, mais pas contre tous, bien au contraire. Des chansons dont la diffusion sur des chaînes ne vous ont jamais empêché de demeurer un homme libre. Bonjour Yves Dutheil.
Bonjour Jacques.
Alors, 50 ans de chansons, un livre, Chemin de Liberté, un coffret, Chemin de Liberté aussi, avec 75 chansons, et puis un parcours qu'on va évoquer, comme d'habitude, avec des dates clés, comme dans les clés d'une vie. Je vous avais déjà reçu, mais là j'ai trouvé de nouveaux angles pour parler de vous, avec une date importante d'abord, qui est dans le livre d'ailleurs, le 2 février 1998. Il y a une plaque à l'école militaire qui met définitivement un terme à une affaire de famille, l'affaire Dreyfus.
Tout à fait. Effectivement, l'affaire Dreyfus n'était pas close, contrairement à ce que beaucoup d'historiens disaient et que l'opinion ne reprenait pas toujours. En fait, l'État français avait reconnu l'innocence de Dreyfus, la justice avait reconnu aussi son innocence, mais l'armée ne l'avait pas vraiment encore exprimé. Et c'est à la suite de toutes les manifestations autour de Jacques Huss que le ministre Alain Richard, à l'époque ministre de la Défense, a décidé d'organiser une cérémonie à laquelle nous avons été conviés, les familles Dreyfus et Zola. Et bah, c'était un moment extraordinaire parce que ça s'est passé à l'endroit même où Dreyfus avait été dégradé. Cette image terrible de l'humiliation.
Alors, il se trouve qu'en plus, les honneurs lui avaient été rendus au moment de ses obsèques.
Curieusement, oui, en fait, par hasard, complètement. L'armée qui était complètement bloquée sur le principe de son innocence, en fait. Et il est mort un peu avant le 14 juillet, et son convoi funéraire, militaire donc, a traversé la place de la Concorde au moment où les militaires répétaient le défilé. Et voyant un convoi funéraire militaire, ils se sont mis au garde à vous, ils ont rendu les honneurs à Dreyfus.
Dreyfus que vous avez bien sûr chanté, Yves Dutheil.
Il était alsacien, français, juif, capitaine, vivait parmi les siens à Paris, 17e. Quand un matin d'octobre, on l'accuse, on l'emmène, vers 12 ans de méprise et d'opprobre et de haine.
Alors, il se trouve que tout est parti d'un film d'Yves Boisset. Il y a eu plusieurs films sur l'affaire Dreyfus. Il y en a eu un de Richard Oswald en 1930, il y en a eu un 31 de Mislon Rosmer, jusqu'à Polanski, il y en a eu une dizaine de films. Et puis, ben, il y a eu celui d'Yves Boisset qui vous a convaincu de raconter cette histoire de famille, Yves Dutheil.
Il faut dire que déjà, Yves Boisset avait eu le financement de ce film, téléfilm d'ailleurs, parce que certains généraux avaient dit une phrase ou écrit une phrase qui disait en substance « L'hypothèse la plus généralement admise est celle de l'innocence de Dreyfus ». Et ça a énormément choqué. Et du coup, François Léotard, qui était ministre à l'époque de la Défense, a débloqué des fonds pour réaliser un film sur l'affaire Dreyfus. Et c'est ce film que Boisset a fait. Et quand j'ai rencontré Yves Boisset, je lui ai dit comme ça, parce que on était à la projection privée d'un autre film, et qu'est-ce que vous faites en ce moment? Ah bah je suis en train de travailler sur un Dreyfus. Et là, ça m'a pris, en fait. Pourquoi Yves Boisset, qui n'est rien par rapport à Dreyfus, va faire un film sur Dreyfus, et moi qui suis son petit-neveu, je vais rien faire pour étayer son innocence ou prolonger la mémoire de son innocence? Et c'est là que l'idée de faire quelque chose est née. Et ce quelque chose, ça a été une chanson.
Et une chanson qui a demandé un an de travail.
Rien que pour le texte.
Alors, il se trouve que l'affaire Dreyfus, c'est une chose, et la guerre en est une autre. Et la guerre, je vous racontais aujourd'hui pour la première fois, Yves Dutheil, votre père a échappé par miracle à la Gestapo.
Oui, ils étaient réfugiés à Lyon en vue de passer en zone libre. Ou au passage à Valence, après la guerre. Lucie Dreyfus, donc l'épouse de Dreyfus, a séjourné sous le nom de Dutheil au couvent des religieuses. Et donc, il était avec ma mère et ma grande sœur à la gare, à Lyon, en train d'attendre le train, et tout d'un coup, il réalise qu'il n'a pas les papiers, les Ausweis. Ils sont restés à l'appartement. Donc il repart tout seul en disant à ma mère, restez là, mettez-vous près de ce pilier, je reviens. Et en fait, quand il est retourné à l'immeuble où se trouvait l'appartement, il y avait une rafle de la Gestapo. Donc il s'est caché dans une armoire où il est resté plusieurs heures avant de ressortir, tétanisé, terrorisé, déjà à l'idée de ce qu'il venait de vivre et en plus à l'idée qu'il ne retrouverait pas ni ma mère ni ma sœur. Et il les a retrouvés à la gare, à l'endroit où il les avait laissés. Mais ça a laissé une trace indélébile et Mon père était un angoissé chronique et il me l'a un peu transmis.
Je comprends. Alors, votre enfance, quand même, elle a été heureuse. Elle a été heureuse avec une chanson.
Au parc Monceau, entre les grilles et les arceaux, les cours d'histoire avaient bon dos. Près du métro, elle m'attendait sans dire un mot.
C'est vrai qu'il y avait le parc Monceau qui était votre quartier général, et il y avait aussi le magasin d'horlogerie de votre grand-père où les montres indiquaient 10h10. Tout, c'est assez curieux.
Parce que le cadran qui indique 10h10, c'est la position la plus élégante en fait, des aiguilles. Et bon, c'était une vraie bijouterie avec des coucous qui sonnaient tous les quarts d'heure. Il y avait une corbeille de bonbons sur la caisse, le comptoir, et j'en ai fait une chanson, Clémentine et Léon, où j'ai un peu changé les noms, Clémentine et Léon Parentin, qui vendaient des pendules à Pantin. Se sont connus un jour en prenant leur journal à côté du Café du Canal, et je raconte en fait toute l'histoire de cette bijouterie familiale.
Et l'horlogerie, justement, c'est l'horlogerie des mots, et ça vient des mots croisés de votre mère et de Max Favalelli, qui a été le monsieur dictionnaire de mots le plus long, et qui aimait les mots croisés parce que Tristan Bernard lui avait donné l'amour des mots croisés. Il a fait plus de 70 000 grilles. Je crois que votre mère en a fait pas mal, Yves Dutheil.
Elle en a fait pas mal, elle m'a donné le goût de ça, et le goût de la langue française. Moi, j'adore les définitions un peu tordues. J'en avais trouvé une, parce qu'il y avait un journal qui m'avait demandé un jour de faire une grille de mots croisés. Donc, je donnais les définitions, puis après, ils se débrouillaient avec la technique, mais j'avais trouvé des définitions. Alors, je compte les lettres. Alors, voilà, je vous dirai la solution, ce sera plus simple.
Oui.
Battu en neige et passé au chinois.
Qu'est-ce que c'est ?
Tibétain.
Ben voilà, c'est une belle définition. Alors, la musique, c'est venu aussi de votre mère qui avait un piano qui jouait d'oreille, comme vous. Et puis, il y a une mélodie, il y a une série de mélodies qui ont marqué votre oreille d'enfance, Yves Dutheil. Les playbacks de Jacques Loussier, ça vous a marqué ?
Mais oui, parce que contrairement aux études qu'on fait, celles de Bach justement, moi j'ai appris la musique un peu par le côté, quoi. J'ai appris le Bach par Jacques Loussier, par les Swingle Singers, j'ai appris Victor Hugo par Brassens, Gazi Belsa, la légende de la nonne, et bon, ça a été une leçon extraordinaire que des auteurs ou des compositeurs m'ont donné sans le savoir. Et je suis rentré en culture musicale à travers ces interprétations très fantaisistes, en fait.
Oui, et en plus, Jacques Loussier, quand l'album est sorti, ça a fait scandale auprès des puristes. Résultat, il a vendu des millions d'albums dans le monde entier.
À juste titre.
Alors, la guitare aussi, je crois que vous aviez 15 ans pour la première guitare, Yves Dutheil, et que c'est au Club Méditerranée que vous avez appris la guitare.
Grâce à un ami, qui est toujours un ami aujourd'hui, qui s'appelle Guy Lukowski. Alors, Guy est un virtuose de la guitare, il est belge, et il a des mains d'une rapidité, d'une agilité incroyable, on dirait un ballet, quand il joue, et quand il fait des trémolos, je suis vert, tellement il est techniquement extrêmement au point. Et donc, c'est lui qui m'a fait sortir du gling et du glang à la guitare, pour rentrer dans l'arpège. Pour rentrer dans la dentelle, vraiment. Et il m'a fait faire mes premières gammes. Et depuis, on est restés amis. Et c'est même grâce à lui que j'ai fait mon premier spectacle à Paris. Oui. Avec Geneviève Bailac, qui m'a demandé de lui de contacter pour le remplacer un jour.
Oui, et les premiers spectacles, bon, il y avait La Resserre au Diable, qui était un cabaret, où il y avait plus de monde sur scène que dans la salle, quelquefois.
C'est ça. Alors, il y avait Cléo Berger et Olivia Orlandi, qui faisaient les deux personnages de la famille Hernandez, de Geneviève Bailac. Et il y avait une voix off, qui disait sur la scène, parce que c'était une audition, en fait, elle passait des sketchs et moi je passais des chansons, « Vous n'avez pas autre chose ?» Et c'était ce gimmick permanent qui faisait que, si, j'ai ça. Alors, hop, je chantais mes premières chansons. Et c'est là aussi que j'ai rencontré Frédéric Botton, qui a entendu ses débuts de chansons, ses premières compositions. Il m'a dit, mais venez me voir, ça m'intéresse. Et celle-là, c'était quoi ? Montrez-moi un début de chanson comme ça.
On va en parler tout à l'heure, justement. Mais il y a aussi un souvenir important, c'est l'Olympia, car vous avez traîné dans les coulisses de l'Olympia, bien avant d'être sur scène, Yves Dutheil.
C'est tout à fait vrai. En fait, j'avais tellement envie de faire ce métier, que je traînais partout où des artistes répétaient. Donc il y avait le groupe Triangle, il y avait Michel Fugain.
Qui avait l'atelier du quatrième étage pour répéter et préparer le Big Bazar.
Exactement. Et moi j'étais là, dans l'ombre, et je disais rien à personne, et je buvais littéralement tout ce qui se passait.
Et c'est d'ailleurs Jean-Michel Boris qui avait prêté la salle du quatrième étage, qui avait convaincu Cocatrix que Fugain et son Big Bazar avaient de l'avenir. Jean-Michel Boris qui nous a quittés récemment et que vous aimiez beaucoup.
Ben oui, il y avait quelques personnes dans ce métier qui étaient des repères, des phares. Il y avait Jean-Michel qui nous a quittés récemment. Et par chance, Monique Lemarcy qui est toujours là avec nous et qui nous accompagne encore de toute sa tendresse, de toute sa bienveillance et qui a été déterminante dans tout le parcours de ma carrière.
Et une carrière qui a une date clé, le 11 novembre 1977. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Yves Dutheil.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yves Dutheil. Ses chemins de liberté, c'est un livre aux éditions de l'Archipel, c'est aussi un coffret de 4 CD. Et la liberté, elle a une date aussi, le 11 novembre 1977. Alors c'est l'armistice, mais c'est le jour de l'enregistrement de votre premier album en public au Théâtre de la Ville.
Voilà, alors ça c'est aussi un petit miracle. J'avais reçu un prix, le prix Jeune Chanson, qui est décerné par le Haut Comité de la Langue Française, oui, pour mon second album, que personne n'a entendu, mais qui n'était pas tombé loin de l'oreille de Gérard Violette. Quand il a entendu que j'avais ce prix, il a tendu l'oreille et il m'a proposé le fameux 18h30, mythique du Théâtre de la Ville, celui où mon père a enfin révélé à ses proches qu'il avait un fils saltimbanque.
Voilà, oui, parce qu'avant, il n'osait pas le dire. Il préférait dire qu'il était à la fac comme étudiant.
Il y a quelqu'un qui lui a dit, mais il y a un type qui s'appelle comme vous, qui va passer au Théâtre de la Ville. Il a dit, oui, c'est mon fils.
Et vous êtes passé avec une chanson qui est dans toutes les oreilles.
Vous savez la tarentelle telle qu'on la dansait autrefois. Moi, je vous montrerai celle que demain l'on dansera. Si vous donnez la cadence, danse, moi, je vous donne le la. Je vous l'apprendrai la danse, 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 jolie petite.
Alors, selon la légende, la tarentelle, Yves Dutheil, c'est une danse italienne qui permettrait à une personne mordue par une tarentule de se débarrasser du venin en se déchaînant, en se remuant.
Moi, je pensais que c'était pour éviter d'être piqué.
Voilà, c'est la légende. Alors, effectivement, la tarentelle, ça a été un énorme succès et c'est sorti contre l'avis total de la direction de votre maison de disques, Yves Dutheil.
Dans la vie, il y a des gens qui savent. C'est-à-dire souvent des gens qui vous disent ce qu'il faut faire.
Oui.
Et Christian Ergot, c'était l'inverse de ça. C'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup, mais qui savait vraiment. Et bah, il m'a beaucoup encouragé avec cet album. Et c'est la première fois où je travaillais aussi avec Claude Dejac, qui a été mon directeur artistique pendant une décennie. Et le directeur de la maison de disques de l'époque avait dit à Christian Ergot, qui était le directeur commercial, donc, en entendant la tarentelle, le petit pont de bois, prendre un enfant, il me manquait toujours, le mur de la prison d'en face. Ouais. Il disait, mais tu crois quand même pas que tu vas tirer un album avec ça?
Ouais.
1 300 000.
Il l'a regretté ensuite?
On n'en a jamais reparlé. Je suis pas cruel.
Voilà. Alors cette chanson, elle est arrivée 3 ans après votre premier succès, et c'est cette chanson que Frédéric Botton avait repérée, Yves Dutheil.
Je regarde un instant vers toi. Presque appuyé sur moi. Un virage à droite, un peu sec qui te plaque à moi. Je voudrais que ce virage n'en finisse pas. Je redresse doucement, sans un coup, ton visage sur mon cou.
Oui, cette chanson, je m'en souviens très bien, quand vous avez débuté, elle a été vraiment repérée par le public qui l'a appréciée. On vous a découvert avec cette chanson, Yves Dutheil.
Oui, beaucoup ont cru au départ que c'était Michel Delpech.
Oui.
Et puis ensuite, effectivement, cette chanson m'a suivi, elle m'a précédé. On en a fait des versions. Ce qu'on a entendu là, c'est la dernière version
en
date.
Oui, on venait de la refaire.
On vient encore de l'enregistrer à nouveau. Mais c'est une chanson fétiche, c'est incroyable. Je ne pourrais pas faire un concert sans qu'il y ait virage.
Mais pourquoi faire des versions nouvelles régulièrement?
Parce que je crois que pour que le public reste intéressé et s'attache à un artiste sur la durée, il faut que nous, sur scène, on soit heureux de faire ce qu'on fait. Donc je ne veux pas jamais rentrer dans la routine. Si je continuais à chanter les mêmes versions des mêmes chansons, à un moment donné, je finirais peut-être par me lasser. Or, je ne me suis jamais lassé. Et parce que, régulièrement, on a voulu renouveler le plaisir de la scène avec la complicité active des musiciens qui m'accompagnent. Et on a inventé à chaque fois des nouvelles versions. Là, il y a une nouvelle version de Prendre un enfant, qui est un picking de guitare différent, qui balance, moi, que j'adore. Et quand on en arrive à ces moments-là sur scène, où les chansons revivent d'une autre vie, très respectueuse de l'original, mais différente, c'est vraiment un vrai plaisir pour nous.
Alors, le plaisir, ça a été aussi de débuter sur scène avec, à Bobino avec Régine, qui vous a engagé, grâce, je pense, à Frédéric Botton, qui avait écrit La Grande Zoa, et vous étiez entre des danseurs russes, Régine et des serpents.
Oui. C'était presque du traîner avec le piton.
Oui, le serpent piton.
Le serpent piton. Parce que Régine, qui chantait donc La Grande Zoa, et puis le mardi, et La Grande Zoa,
son boa, et son chinchilla.
Voilà. Mais sauf que là, elle avait fait le spectacle avec un vrai serpent, mais un gros, un très très gros, qui s'enroulait autour de son cou et gigotait autour de ses épaules. Donc elle rentrait en scène avec un piton, sur les épaules. Et voilà, c'est très très très, très spectaculaire, mais en même temps, la salle n'en revenait pas, quoi.
Ouais. Et vous, vous n'avez pas eu de problème avec ce piton, jamais ?
Non. Quelquefois, le piton s'est un peu lâché sur la scène. Oui. C'était cocasse. Mais non, moi, j'ai pas eu de problème. Et pas eu de problème non plus avec les samouraïs, qui étaient un numéro d'arts martiaux éblouissant, avec des sabres dont moi, je savais, pour les avoir vus en coulisses, qui coupaient comme des rasoirs. Et c'était très, très, très impressionnant.
Alors, il y a eu d'autres concerts dans la foulée, et un soir, vous avez fait un concert à Casino de Cadbourg, Yves Duteil, il y avait Cocatrix qui était là, et vous lui avez dit, un jour, je serai sur scène, je ne sais pas si vous avez pris au sérieux, sur scène à l'Olympia, bien sûr.
Et oui. En fait, je me souviens très bien, il y avait Stone et Chardin, juste avant moi, qui avait chanté, et moi, c'était voilà, mon tour derrière, donc je chante, et puis je sors de scène, et je vois cette ombre tapis dans les coulisses, avec ce gros cigare, c'était Bruno Cocatrix. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui ai dit... Bonjour Monsieur Cocatrix, un jour je rentrerai à l'Olympia par la grande porte. C'est quand même assez présomptueux. Et il m'a dit, mais j'en suis sûr.
Et finalement vous lui avez redit, vous l'avez revu à l'Olympia ?
Bien sûr, bien sûr.
Vous vous souvenez de ça ?
Et oui, et il était toujours là, comme d'ailleurs Jean-Michel Boris nous attendait toujours à la sortie de scène, il nous prenait dans ses bras, et c'était une vraie émotion, un super souvenir.
Alors, Bruno Cocatrix a eu plusieurs vies. Il a été maire de Cabourg. En fait, il avait dirigé le Grand Hôtel. Il voulait transformer le Casino de Cabourg en Olympia d'été. Ça marchait pas, parce qu'un monsieur tiers, qu'il appelait le tiers provisionnel, qui était le maire, ne voulait pas. Donc, il s'est présenté contre lui. Il a été élu.
Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Ben voilà, ça vous est arrivé aussi.
Exactement.
À Plessis-sur-Marne, car vous ne pensiez pas du tout être un jour maire. Et vous avez fait 4 mandats.
Et oui, on votait pour le maire, nous, très régulièrement. Mais à un moment donné, en fait, on habitait là depuis 12 ans, et un jour, on a vu, c'est notre fille d'ailleurs, qui a vu une affiche jaune, l'annonce de la création d'une carrière, et on s'est dit, mais ce village rural, avec les camions, avec les klaxons de marche arrière, avec les bulles, les 36 tonnes, c'est plus du tout le village où on a choisi de vivre, ça va plus être rural du tout, et c'est devenu un combat. Et évidemment, comme j'étais un des habitants les plus en vue, je dirais, du village, naturellement, on m'a poussé pour prendre la tête du combat. Et bah, de combat en combat, et d'affichette en affichette, il y a un moment où les élus du coin nous ont dit « mais vous n'avez qu'à devenir maire ».
Oui.
Et ça n'était pas au programme.
Non, et il y a quelqu'un qui vous l'a conseillé, je crois, au milieu d'un concert de danseurs tahitiens, c'est Jacques Chirac en personne, Yves Duteil.
Exactement. Sylvie Dupuis, qui était notre agent à l'époque, sa maman était une amie de Jacques Chirac, c'était Anne-Marie Dupuis, maire de Cannes, qui nous avait obtenu un rendez-vous avec le maire de Paris, parce que ce territoire sur lequel devait s'implanter la fameuse carrière qui allait défigurer le village, eh bien, c'était l'emprise du canal de l'Ourcq, et le canal de l'Ourcq, c'est la ville de Paris. Donc on est allé en visite au maire de Paris. Et alors, je m'en souviendrai toujours, on était avec Noël, très timide, très effacé, dans ses salons feutrés, avec des parois en marbre et des moquettes, et les huissiers qui vous disent « tout bas, installez-vous ici, est-ce que vous voulez un petit café ?» Et au bout d'un moment, on a entendu la voix dans les couloirs qui résonnaient entre les marbres des murs. Alors, où ils sont les Duteil? C'était Jacques Chirac, c'était notre premier rendez-vous.
Et il y en a eu beaucoup d'autres, car vous avez créé des liens d'amitié avec lui.
Parce qu'il a toujours été au rendez-vous, à tous les rendez-vous, quand on lui a demandé de défendre la chanson française.
Et vous avez été aussi, Yves Duteil, un pionnier de l'écologie, parce qu'à Précy-sur-Marne, notamment, il y a eu des problèmes de crue de la Marne, et vous les avez résolus très simplement.
Très simplement n'est pas tout à fait le mot, mais on les a résolus, oui. En fait, on a réussi à transformer un outil juridique qui permettait de préempter des terrains en se disant, eh bien, nous, simplement, on a envie de faire quelque chose pour empêcher que de nouvelles personnes s'installent en zone à risque si les maisons sont vendues. Et donc, on a installé un système qui était totalement inédit, qui n'a fonctionné que parce que nous ne savions pas que c'était impossible, et qui a servi ensuite de modèle à toutes les initiatives de récupération en zone à risque, que ce soit des zones Céveso, des zones d'avalanche, des zones d'incendie ou des zones inondables. C'est cette méthode qu'on a instituée à Précy-sur-Marne, comme ça, en néophyte, qui a servi de modèle. Et c'est pas nous qui le disons, c'était Michel Barnier à l'époque, ministre de l'écologie.
Voilà, et vous avez fait 4 mandats, et puis ensuite vous êtes revenu à la chanson. Vous n'avez jamais abandonné d'ailleurs, vous baissiez votre écharpe de mer pour prendre votre guitare. Et il y a une autre date importante dans votre vie, c'est le 4 avril 1983. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Yves Duteil.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yves Duteil. Ce livre, Chemin de liberté, chez l'Archipel, cet album, ce coffret avec 75 chansons, liées d'ailleurs au livre, et puis une date importante, le 4 avril 1983. Vous avez passé une journée chez Félix Leclerc, je crois.
Oui, grâce à Jean Dufour, qui était notre agent, et à ce moment-là, on avait pu faire connaissance avec Félix parce que il était malade, il avait un problème respiratoire, il pouvait pas assurer les tournées qu'il avait prévues à Paris, et comme Jean était son agent en France, Jean a proposé de remplacer le spectacle de Félix par le nôtre, et c'est comme ça que j'ai fait ma première tournée en France, la première grande tournée dans les théâtres de province. Et effectivement, grâce à Jean, on est allé rendre visite à Félix, à l'île d'Orléans, chez lui, et on a passé une journée absolument délicieuse. J'ai une anecdote d'ailleurs, parce que Jean Dufour, qui était un bon vivant, cultivait des vignes et faisait du vin. Et il avait offert une bouteille de vin à Félix, et Félix l'avait précieusement rangée dans un placard. Et à un moment, Félix m'appelle, il me dit « Venez voir... » Et il ouvre le placard, il sort la bouteille et il me montre la bouteille que Jean lui avait offert à ouvrir le jour de l'indépendance. Et Félix me regarde et il me dit « J'en arrive à espérer que le Québec ne soit jamais indépendant.
» Et il y a une chanson qui est un grand cru et que Félix Leclerc a découvert en premier.
« Du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe. Et qu'il en a gardé toutes les harmonies. »
La langue de chez nous est née justement au retour d'un voyage au Québec.
De ce voyage-là, absolument. Félix nous a parlé pendant très longtemps de la langue française, qui était bridée en fait au Québec, parce que 95% de francophones étaient obligés de parler anglais, et de faire l'administratif en anglais, de chanter les cantiques en anglais, alors que les Anglais, eux, se sentaient comme chez eux, partout. Et il disait, c'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça. Et j'ai senti cette colère, j'ai senti cette rage et cet engagement d'un poète pour une cause. Et ça m'a vraiment impressionné. Quand je suis rentré en France, j'étais imprégné de cette conversation. Et ça a tourné dans ma tête et j'ai mis cette chanson sur le papier, la langue de chez nous. Et on est retourné chanter la chanson au Québec sans que le disque soit encore enregistré. Et on est retourné voir Félix pour lui chanter en premier, chez lui, cette chanson. Et les larmes de Félix, ça a été quelque chose. Quand j'ai vu Félix pleurer, après que je lui ai chanté la chanson, et il m'a dit, mais peut-être qu'il faudrait mettre quelque chose de plus dans cette chanson, un pont entre le Québec et la France. Et je me suis dit, oui, effectivement, peut-être qu'on peut trouver une rime... québécoise à la place de la Contrescarpe, par exemple. On pourrait dire qu'est-ce qu'on pourrait trouver. Il me dit, il y a Saint-Polycarpe. Alors je dis, ok, d'accord, Saint-Polycarpe. Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Polycarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays. Et je me suis dit, mais bon, alors j'ai essayé le soir à Québec. Les gens étaient debout dans la salle. Un des grands, grands moments de ma carrière. Mais après, je me suis dit, mais les gens du Québec me disent, mais c'est quoi la Contrescarpe? Et là, je me suis dit, les gens en France, ils vont me dire, mais c'est quoi Saint-Polycarpe? Et c'est là que l'idée est née de changer le texte et de dire, et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe. Parce que l'île d'Orléans, c'est l'île de Félix Leclerc. C'est là où il habitait et c'est là où aujourd'hui elle repose.
Oui, et je me souviens un jour à Québec qu'avec un groupe, nous avons chanté pour l'anniversaire de Félix Leclerc, il était à l'île d'Orléans, une chorale de 300 personnes pour lui chanter « Bon anniversaire ». Et moi je me souviens aussi, un soir j'étais à Montréal, j'ai vu votre spectacle et j'ai vu les gens debout avec la langue de chez nous.
Alors c'est, je disais, un des plus grands moments de ma carrière, de ma vie même. C'est ce moment où j'ai pour la première fois chanté la langue de chez nous au québécois. La chanson n'était pas indisquée, comme ils disent, et personne ne la connaissait. Il y a eu un moment de flottement, une espèce de silence après la chanson. Et l'onde qui s'est produite à ce moment-là venant du public a été tellement forte que le technicien qui était au retour de scène, qui était donc sur le côté, sur mon côté gauche, dans les coulisses, m'a raconté après, il m'a dit « Tu as été poussé en arrière par le souffle du public. » Et j'ai jamais oublié ce moment où les gens se sont levés pour une ovation. Et cette chanson est devenue un lien extraordinaire entre les Québécois et nous.
Oui, je crois même que c'est l'hymne d'ouverture des sommets de la francophonie aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
C'est fou.
Ça. Ouais, non, mais voilà, c'est des moments où on écrit quelque chose, on est un peu au-dessus de soi-même, on ne sait pas trop ce qui nous a touché du bout du doigt venant du ciel, mais il s'est passé quelque chose au moment de l'écriture.
Et une fois encore, le responsable de la maison de disques ne croyait pas en cette chanson, il disait qu'il ne voulait pas la sortir.
Absolument. c'était pas le même.
Ouais, il y a des prototypes. Viré, le président, oui.
Et en fait, il m'a dit non, mais attends, ça c'est ringard, quoi. C'est un truc qu'on va nous prendre, on va nous rire au nez. Oui. C'est un combat d'arrière-garde. Oui. Donc on n'a pas sorti la chanson. Et il a fallu encore une fois l'intervention de Monique Lemarcy, décidément, pour dire mais oui, mais j'ai vu la réaction du public. Je pense qu'on devrait pouvoir la programmer comme une nouveauté. Ça faisait un an que le disque était sorti et la suite, on la connaît.
Voilà. Et vous avez aussi au Québec rencontré Gilles Vigneault. Vous avez passé une journée avec lui, autre star du Québec, autre légende du Québec. Et un soir de 48, Gilles Vigneault assiste à un récital de Félix Leclerc et lui demande un autographe. Il débutait. Et Leclerc écrit sur le programme « Fais ce que tu veux ». C'est un petit peu votre devise aussi, Dutheil.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que avec Noël, on a pris notre liberté, on l'a conquise et bon, on l'a assumée après. Mais effectivement, notre devise après, ça a été rêver plus haut.
Oui.
Et aujourd'hui, c'est encore plus haut parce que c'est rêver le monde plus beau qu'il n'est pour qu'il le devienne.
Voilà. Et il y a une autre chanson qui est célèbre au Québec. C'est la chanson des baptêmes. C'est celle-ci, Yves Dutheil.
Prendre un enfant par la main. Chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour.
Avec la nouvelle version, effectivement, de cette chanson.
Un nouveau viking de guitare.
Voilà.
Ouais.
Et cette chanson, curieusement, n'a pas été un succès immédiat, Yves Dutheil.
Non, parce que je pense qu'elle reflétait quelque chose qui n'était pas habituel à cette époque. C'est l'amour du père, l'amour paternel. Les hommes ont un petit problème avec la tendresse, avec la douceur. Moi, je suis devenu un peu, malgré moi, comme un défenseur de cette douceur militante, parce que je pense que la douceur est une force intime. Et que tout le monde aspire à cette douceur, mais personne n'ose le dire. Et comme je l'ai dit, haut et fort, haut et doux, c'est-à-dire que j'ai toujours dit que, moi, quand on enregistre la mémoire humaine sur des disques durs, moi je l'enregistre sur des disques doux. Et oui, c'était pas... Brassens disait montrer son cœur ou son cul, c'est pareil.
Oui.
Ben non, moi j'avais besoin de ce côté démonstratif de mes sentiments. Et même dans ma propre famille, on n'était pas comme ça. Donc j'étais un peu différent. Et cette chanson, elle a fini par s'imposer à l'envers, par le public. C'est-à-dire c'est le public qui est venu vers cette chanson et qui lui a accordé un statut tellement extraordinaire et tellement inhabituel que même moi, ça m'a retourné.
Alors, vous avez gagné le concours de la plus belle chanson du siècle. Moi, je me souviens, c'était à l'Olympia, j'étais là en coulisses. Vous avez battu notamment Charles Trenet avec La Mer, qui était troisième, et qui n'en revenait pas. Mais surtout, vous n'auriez jamais dû participer à ce concours au départ, Yves Dutheil.
Non, alors on va encore reparler de Monique. Monique, en fait, les organisateurs, on ne va pas les citer, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment prescription. Oui. Les organisateurs avaient décidé de ne pas mettre prendre un enfant. Et Monique a dit, vous ne mettez pas prendre un enfant? Elle dit, oh non, on va pas prendre un enfant, Yves Dutheil, enfin. Bon, elle a dit, écoutez, si vous mettez pas Yves Dutheil avec prendre un enfant, je retire RTL. Et là, il y avait un blanc. Et ils ont mis la chanson. Et bon, voilà, moi j'ai été probablement l'un des derniers à apprendre que la chanson avait gagné le concours.
Vous ne saviez pas ?
Non, je ne sais. Quand je suis arrivé à l'Olympia, je n'étais pas au courant.
Et alors, ça vous a quand même apporté beaucoup de bonheur, mais ça n'a pas été simple non plus, parce qu'il y a eu des tirs de mortier qui sont déclenchés contre vous à cause de cette chanson, ou grâce à cette chanson, Yves Duteil.
Il y en avait déjà eu un peu avant, mais là, ils avaient vraiment trouvé leur cible. Et effectivement, c'est peut-être là que s'est déclenché le processus de liberté. Parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas assumer les chansons que j'écrivais si je n'en étais pas l'acteur en tant qu'homme. Et ça m'a obligé à monter d'un étage et à devenir l'homme de ce que j'essayais de défendre dans mes chansons. Et devenir le défenseur de la douceur dans un monde où règne la dérision, ce cynisme, un peu cette cruauté médiatique qui fait les délices en fait de beaucoup de soirées de télévision ou de radio, d'humoristes, etc. J'étais un peu une cible. Et là, je suis vraiment devenu plus qu'une cible, j'étais un objectif. aujourd'hui, vraiment, j'en ris avec le recul parce que ça y est, la vague est passée. Et puis je pense que le respect, c'est quelque chose qui se conquiert. C'est pas quelque chose qui vous vient naturellement de la part des autres.
Et le respect, vous l'avez gagné en défendant la chanson française, parce que vous avez aussi contribué, il faut le savoir, Yves Duteil, à ce que les quotas de chanson française soient respectés. Ça a été un de vos combats.
Un long combat avec Jean-Pierre Lang. On faisait le siège de l'Assemblée nationale et du Sénat, jour et nuit. Et je me souviens, on avait même été jusqu'à recruter Philippe François, qui était un sénateur qui faisait pas forcément partie de la commission culture, mais agriculture.
Et vous êtes une grosse légume, c'est normal.
Exactement. Ça, je vais mettre du temps à la digérer. Mais c'est ça, avec les critiques, des fois on savoure et des fois on déguste. Là, en l'occurrence, alors on est allé chercher Philippe François. Oui. Non, je dis ça avec beaucoup de tendresse. Et Philippe François a fait un discours pour expliquer pourquoi il fallait défendre la chanson française. Il a commencé son discours en disant, voilà, beaucoup oublient que le ringard, c'est le tison qui sert à attiser la flamme dans le foyer, dans la cheminée. Ça nous a frappés parce que les sénateurs, ce jour-là, ont voté pour les quotas de chanson française et ils voulaient nous défendre. Et cette phrase, le ringard, c'est le tisonnier en fait, c'est celui qui attise les flammes. Donc on a eu l'impression avec Jean-Pierre Lang, qui a écrit quand même Les Corons, entre autres, et beaucoup d'autres très très belles chansons, on a eu le sentiment d'avoir marqué des points et d'avoir convaincu la commission culture du Sénat de nous soutenir dans ce combat.
Il faut oublier que le mot ringard, au départ, c'est André Frédéric, un humoriste oublié, qui l'a inventé. C'est Jean Carmet qui l'a popularisé. Le mot n'existait. C'est uniquement ça. On a oublié que ce mot vient de André Frédéric et Jean Carmet.
Incroyable. Il y a des gens qui font des grandes choses avec des petites notes d'humour.
Et la chanson, justement, pour vous, c'est trouver le mot juste. Et vous avez fait aussi des chroniques pour Panorama, des chroniques journalistiques. À chaque fois, vous travaillez une chronique comme une chanson, Yves Duteil.
Oui, et justement, j'ai profité de ce confinement en me disant qu'on ne peut pas faire que du négatif dans cette période. Et j'ai écrit. Et ouais. Je me suis mis dans la lignée de cette écriture, effectivement, de chronique, qui m'a permis de concentrer le propos. On a vraiment essayé. J'ai vécu le masque et la plume, en fait.
Voilà, exactement. Et en vrai, et ben justement, ce confinement vous a permis d'écrire un livre dont on va reparler dans quelques instants à travers une autre date, le 6 mai 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Yves Duteil.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yves Duteil. 6 mai 2021, sorti chez Archipel de Chemin de la Liberté. Alors c'est à la fois un livre, effectivement, à l'Archipel, mais également un recueil de 75 chansons qui sont évoquées dans ce livre. Alors ce livre, c'est le résultat du confinement, Yves Duteil.
Exactement. Et à la fin, au moment de la relecture traditionnelle, quand vous écrivez un livre, l'éditeur vous envoie une version en disant, on en est aux ultimes corrections, maintenant il faut le relire. Donc on relit avec Noël. Et on s'en est souvenu il y a deux jours, en fait, on était dans un canapé de la maison et on regardait les chapitres du livre et on se disait, mais c'est incroyable. Parce qu'on avait décidé de ne pas évoquer les chansons directement dans le livre, de pas dire ah voilà alors cet épisode c'est la tibétaine au cœur si pur qui dormait à l'ombre des murs, etc. Non, on n'a pas fait. Mais par contre les chansons étaient tellement en filigrane de chaque chapitre. On s'est dit que ce serait quand même joli de pouvoir les écouter au fur et à mesure, comme ça, éventuellement, si on en a envie. Et l'idée est née de ce frère du livre, en reflet sonore du propos des chapitres. Alors oui, il y a tous les épisodes de notre vie, et c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point, en fait, on avait bâti l'architecture de ce projet comme une ligne de vie, et à quel point notre vie était liée à la musique, et à quel point la musique était liée à notre vie. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce disque, de reprendre les chansons du livre.
Avec 16 versions inédites de chansons.
Pour faire de ce disque quelque chose qui ne soit pas une compilation. On ne voulait pas que ce soit une compilation, et ça n'en est pas une, 75 chansons, mais dont 16 ont été des nouvelles versions en studio ou en public, inédites. Et ça nous a fait un bonheur extraordinaire, parce que ça nous a permis de retourner en studio avec notre équipe de scène, Michel Collin au son, Laurent Compigny à la console, parce que c'est lui qui avait enregistré Respect avec nous, les musiciens avec lesquels je joue sur scène. Et on s'est retrouvés finalement privés de scène, mais pas de musique. Et quand on s'est retrouvés pour jouer, on s'est dit, oh là, ça fait un an qu'on n'a pas joué, ça va peut-être être un peu difficile. Et au contraire, ça avait mûri. On était très excité, très heureux, et ça nous a provoqué un bonheur incroyable. À partir de là, le projet s'est emballé, et tous les gens qui ont participé au projet ont été d'un enthousiasme communicatif, et tout le monde s'y est mis, et on n'était jamais été aussi vite pour faire un album aussi grand.
Alors, Chemin de Liberté, c'est le résultat de 50 années de chansons que vous n'auriez jamais espéré au départ, Yves Dutheil.
Quand on est adolescent et qu'on est sur son lit avec sa guitare posée à côté de soi et le carnet jaune avec les petits carreaux où on essaie d'écrire quelque chose, on se doute pas que 50 ans plus tard, on va y être encore et avec le même enthousiasme, la même passion, le même bonheur.
Et la même jeunesse.
Voilà, exactement.
Alors, ce livre aussi doit beaucoup à Noël. Je dis toujours que votre femme, grâce à votre femme, pour vous, c'est Noël toute l'année.
Oui.
Et il y a une chanson, d'ailleurs, dans cet album, qui reflète ce souvenir.
On donnait pas cher de nos peaux. Cet amour semblait bien trop beau pour résister au quotidien, à l'épreuve du lendemain. J'ignore encore par quel sentier on a franchi tous ces étés et quel détour on a pu faire pour survivre à tous ces hivers.
40 ans plus tard, Noël est là, derrière chaque chanson, Yves Dutheil. Elle vous a aidé à concrétiser vos rêves d'enfant.
Plus encore. Plus, parce que j'aurais pas osé rêver le quart de la moitié de ce qui m'est arrivé, de ce qui nous est arrivé. On se retourne pas souvent pour regarder dans le rétroviseur, parce que le pare-brise est beaucoup plus grand, oui, et que c'est mieux de regarder où on va. Mais quand on regarde ce passé, on est quand même heureux. Heureux d'avoir vécu tout ça, d'avoir rencontré des gens merveilleux, d'avoir connu une aventure artistique, amoureuse, humaine, qui nous a amenés partout autour du monde, et qui m'a permis de m'exprimer, de me relier aux autres, moi qui étais plutôt un ado timide. Et effectivement, ce moment de d'hommage, en fait, je me dis, il faudrait qu'il y ait une Monique Lemarcy là, autour de nous maintenant pour dire, ah mais cette chanson-là, 40 ans plus tard, c'est mon hymne à l'amour à moi, sauf que je piaffe de l'avoir écrit.
Et en Corse, vous êtes d'ailleurs Yves de Noël, vous n'êtes pas Yves Dutheil.
Alors oui, en Corse, c'est Noël qui m'a fait découvrir, oui, la Corse, parce qu'elle a passé les plus tendres années de son enfance. Son père l'emmenait là-bas en vacances, ses parents, et sur une plage complètement déserte, le Palombage, qui est aujourd'hui une des plus belles plages du monde, et qui est très loin d'être déserte. Et quand là-bas, elle m'a emmené pour faire connaissance avec son univers de la Corse, son amour de la Corse, et avec les Corses, parce que la Corse, c'est du soleil, c'est des plages, c'est des montagnes, des paysages, c'est de la charcuterie, c'est du fromage, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est aussi des Corses. Et les gens là-bas sont tellement merveilleux que quand on est arrivé, ils m'ont adopté. Mais dans l'autre sens, c'est-à-dire Noël n'est pas la femme d'Yves Dutheil. C'est moi qui suis le Yves de Noël.
Dans ce livre, Chemin de Liberté, alors que vous êtes un homme pudique et vous évitez le buzz soigneusement, vous révélez pour la première fois que Noël a été très malade, que vous avez été malade et vous en avez réchappé tous les deux pour repartir de plus belle.
Oui, alors c'est... On nous imagine mal en souffrance, parce que je crois que j'ai essayé de montrer le meilleur, et pas forcément le plus dur, le pire. Mais je crois qu'en ayant traversé le pire, on s'aperçoit qu'on n'est jamais à l'abri du meilleur. Parce que la chance qu'on a eue, c'est d'en réchapper. Moi, d'un problème de cœur, où je sais que bien souvent, on n'en sort pas. Et Noël, d'un problème grave, elle aussi. Et je crois que ça a été chacun notre tour d'être le soutien de l'autre. Et il y a une autre chanson qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle « Pour que tu ne meures pas ».
Ben justement, on va l'écouter.
Pour que tu ne meures pas, je plongeais mon regard au plus profond du tien pour soigner ton chagrin. J'aurais voulu qu'on m'aide à trouver le remède. J'aurais changé l'histoire pour effacer les jours qui déposaient du noir autour de ton amour, pour en briser le cours.
Mais c'est vrai que cette chanson résume effectivement tout le combat que vous avez mené, moral, pour échapper au pire, Yves Dutheil.
Oui, c'est quelque chose qui a dû nous souder plus fort que tout, et qui nous a permis de profiter davantage de tout ce que la vie nous a offert. Et voilà, cette chanson, elle est moins connue, elle est moins exposée, mais elle fait partie de mon panthéon personnel. Je me revois l'écrire, et je crois que cette volonté qu'on a eue chacun de s'en sortir pour l'autre et pour les autres, nous a permis d'émerger du pire pour apprécier encore plus le meilleur.
Alors, dans ce livre, vous évoquez aussi vos amitiés, Yves Dutheil, notamment avec Raymond Devos, avec qui vous avez partagé le dîner, j'en ai partagé aussi, où à la fin du dîner, il testait ses sketchs en s'allongeant par terre, par exemple, pour voir si ça faisait rire le public.
C'est ça, mais parce qu'il est, en fait, on l'a vu un jour en scène faire un quart d'heure sur une araignée, parce qu'il entendait quelqu'un dans le public qui disait « l'araignée, l'araignée !» Alors il disait, j'ai pas écrit de sketch qui s'appelle l'araignée, je ne sais pas ce qu'il veut dire, et donc... À un moment donné, la personne en public lui a montré, il y avait une araignée qui était dans le faisceau du projecteur, et on voyait son fil du côté du public, et on voyait l'araignée. Il a fait un quart d'heure sur l'araignée, mais aussi dans la vie, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous disait « Joyeux anniversaire, je ne sais pas combien tu as, mais tu ne les fais pas
voilà. ». Et donc il y a une amitié partagée totalement, avec des soirées, des dîners, et quelqu'un qui vous a presque appris aussi une sorte d'amour de la vie aussi.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui dévorait la vie. C'était comme Chirac, quoi. C'était des bouchées entières. Il dévorait la vie. Et effectivement, c'était un travailleur acharné. Il était tout le temps en train d'écrire, d'apprendre à jouer d'un instrument, de faire quelque chose de nouveau. Et il écrivait des chansons flash. Se coucher tard, nuit. Voilà.
C'est comme Brassens qui vous a appris, vous aussi, à vous lever tôt pour écrire, Yves Dutheil.
Mais oui. Alors ça, c'est grâce à Clémentine de Roudil, qui est la petite fille de Doineau, le photographe, adoré de tous les photographes, qui a organisé une exposition Brassens à la Cité de la Musique. Et on était visiter l'exposition dont elle était commissaire. Elle a reconstitué l'atelier, en fait, de chansons de Brassens. Et il y avait comme un kakémono qui expliquait comment il travaillait. Et c'est là que j'ai appris en fait qu'il travaillait très tôt le matin. 5h30, 6h, il se réveillait, il travaillait. Et je me suis dit, pourquoi j'essaierais pas ça? Et ça a été une révélation. Moi qui m'endormais sur des lignes de Z ou sur des traits au stylo jusqu'au bord de la page, le soir, parce que j'étais fatigué, je me suis mis à travailler le matin, très tôt, l'esprit frais, le silence dans la maison, aucun coup de téléphone, personne pour vous déranger. Et finalement, c'est comme ça que je travaille maintenant.
Voilà. Et il y a une autre chanson qui est née aussi d'une amitié, c'est Mélancolie.
Il y a des jours où l'on n'est plus personne, comme au milieu d'un cinéma désert, on rembobine et tout passe à l'envers.
Cette chanson, elle doit beaucoup aussi à Véronique Sanson.
Oui. Oui, parce que Véro a accepté de chanter en duo avec moi cette chanson sur un album qu'on a adoré, qui s'appelait Entre elles et moi, et qui réunissait en fait les voix féminines qu'on adorait. Il y avait Véro, il y avait Véronique Rivière, il y avait Didi Bridgewater, il y avait Jeanne Moreau dans un duo qui s'appelait Adolescente. Il y avait Enzo, voilà, il y avait vraiment je cherche parce que Rose Laurence faisait partie aussi de ce bouquet. Et en fait, c'est un disque qu'on a adoré parce que Véro a abordé cette chanson que j'avais écrite comme pour se l'approprier. Et beaucoup ont cru après qu'elle l'avait écrite tellement elle était bien dedans. Et donc, c'est un morceau, pour moi, c'est un morceau incroyable parce que entre Véro et moi, au niveau musical, on n'est pas du tout dans les mêmes styles. Moi, plutôt dans les ballades, les choses très douces, etc. Véro, c'est plutôt l'énergie, le rhythm and blues. Et quand on nous entend chanter ensemble, je trouve qu'il y a une osmose entre nos voix et notre façon d'organiser les syllabes et les accents toniques et les mots. Il y a quelque chose presque d'anglophone entre nous dans cette façon d'organiser la musique.
Alors, dans ce livre « Chemin de liberté », on apprend aussi que vous avez un piano chez vous qui est lié à une chanson et Hugues Dutheil.
En regardant le mur, j'imagine à sa place les grillages ouvragés d'un parc abandonné, explosant de rosiers, n'est-ce pas ?
Le mur de la prison d'en face, c'est, vous l'avez joué sur le piano du studio numéro 2 de Pathé Marconi, que vous avez racheté.
Oui, tout à fait. Ça, j'en suis très très heureux, très fier. Au moment où Pathé Marconi a dû se débarrasser des studios d'enregistrement mythiques du Pont de Sèvres, où j'avais enregistré la plupart de mes chansons, et aussi où j'avais pris le la pour toutes mes chansons, que ce soit pour la guitare ou pour le piano lui-même. Et on a dit, est-ce qu'on peut pas racheter ce piano ? On nous a dit oui, et on l'a racheté.
Voilà, et ce livre est un bijou, justement, Chemin de liberté. Il faut le lire tout en écoutant ce coffret Chemin de liberté. Merci Yves Dutheil, et continue comme ça le plus longtemps possible.
Merci cher Jacques.
Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.